le patrimoine et la culture ne pouvant pas parler d'eux-mêmes, il faut un intervenant.
En gros, à cette époque, la France est morcelée entre plusieurs seigneurs.
Dès le premier millénaire, on va parler de Candé, mais dans des dialectes différents. Hein. Les Celtes, les Latins parlent de Condat, Condatum, Condéium.
Au-dessus du château d'Èvre, là, on a suffisamment maintenant d'éléments pour voir qu'on a un habitat dense.
Disons qu'avant la Révolution, on comptait 3 chapelles dans la commune.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans l'émission Emmenez-moi sur la Rage, c'est Rémi Baudin au micro. Alors aujourd'hui, emmenez-moi au château de Candé, ou plutôt au domaine de Candé, qui est son appellation actuelle. Je reçois pour ça, enfin en tout cas non, je ne reçois pas parce que c'est le château de Candé qui me reçoit aujourd'hui. C'est Violaine Montmarchais qui me fait l'honneur de me recevoir au sein même de ce domaine. Bonjour Violaine.
Bonjour.
Alors, vous êtes médiatrice culturelle en charge de la boutique du domaine, c'est bien ça ?
Exactement.
Alors, merci d'être avec nous sur la Rage. On va commencer par une question toute bête. Finalement, ce château, il date de quand, les débuts, tout ça ?
Alors, pour la construction actuelle, la partie la plus ancienne date de la Renaissance. Dès 1499, en fait, François Brissonnet s'est installé ici, qui était un personnage régional assez connu à l'époque. Il fait construire un petit pavillon carré qui existe toujours. Donc là, voilà, les premières constructions remontent à cette période.
Il semble qu'il était maire de Tours, si je ne dis pas de bêtises, à l'époque.
C'est ça, maire de Tours. Et c'est aussi l'un des trésoriers du roi Louis XII. Donc il profite aussi d'un statut important au rang du royaume.
Donc à l'époque, quand il fait construire ça, c'est une résidence où il a l'envie il a des projets quelque part pour ce château. C'est quoi ? C'est un château Renaissance ?
C'est un château Renaissance, exactement. Ça lui permet aussi d'avoir un petit relais de chasse, hein, puisque lorsqu'il a acheté le domaine, les terres s'étendaient sur environ 600 hectares, donc vraiment un terrain assez vaste. On pratique la chasse dès la Renaissance. À cette époque, c'est déjà une activité très répandue. Et bien sûr, c'est aussi à la mode, en quelque sorte, d'avoir son château en Touraine, puisque la cour du roi est installée ici. C'est important que chaque...
Oui, il y a quelque part, il y a une notion de prestige ici.
Oui, voilà, ça correspond à ça.
Et avant, pourquoi Candé, finalement, qu'est-ce qui fait que cet emplacement est privilégié par rapport à un autre ? On le sait, non ? Il a une situation géographique, hormis le prestige des châteaux de Touraine, il y a quelque chose ?
Pas particulièrement.
Il est un peu en hauteur quand même.
Oui, déjà, il est en hauteur. Alors ça, c'est un endroit stratégique en fait dès les premières occupations au Moyen-Âge. Je parlais de la Renaissance, mais au Moyen-Âge, on a déjà une petite installation d'une maison forte. Donc là, on comprend vraiment l'intérêt stratégique puisque depuis le promontoire naturel, les seigneurs à l'époque médiévale peuvent contrôler les abords de leur propriété.
Oui.
Et lorsque François Brissonnet s'installe ici, en fait, il a fait abattre cette demeure médiévale pour construire un château plus moderne puisqu'on est entré dans l'ère de la Renaissance. Mais malheureusement, je ne pourrais pas vous dire précisément quelles sont les raisons qui ont poussé Brissonnet à s'installer à cet endroit.
Donc Brissonnet, c'est à peu près quelle époque ?
Il achète le domaine en 1499.
Oui.
Et donc la construction du pavillon Renaissance est achevée en 1508.
Il me semble qu'il est mort entre-temps d'ailleurs.
Oui, il est mort entre-temps, c'est sa fille qui a repris les travaux et qui a achevé le petit château Renaissance.
Et ensuite, qui l'a racheté ?
Alors après lui, il y a plusieurs propriétaires différents qui se sont succédés sur les lieux, mais comme ils n'ont pas vraiment marqué, il n'y a pas eu de grandes transformations, nous on les aborde très peu lors de nos visites, et les propriétaires suivants, en fait, très importants, sont les Drake del Castillo.
Donc là, il y a un saut dans le temps.
Voilà, un saut dans le temps, puisqu'on se retrouve en 1853.
Oui,
donc il y a plusieurs siècles qui s'écoulent avant un changement important.
Donc Santiago Drake del Castillo, qui c'est ce monsieur ?
Alors c'est un notable d'origine anglaise et cubaine qui vivait en région parisienne. Et donc en 1853, il achète les terres de Candé qui ont déjà bien... Elles se sont réduites hein, puisqu'il achète un domaine de 300 hectares. Et lui, il va avoir à cœur en fait, de rentabiliser sa propriété, vraiment d'exploiter toutes les ressources naturelles, les cours d'eau, les terres. Hein,
développer il chasse
les...
un peu.
Voilà, il chasse aussi. Il fait construire un pavillon de chasse à cette époque et il va considérablement agrandir le château.
C'est-à-dire, est-ce que ça reste... Déjà 3 siècles après, je suppose qu'on n'est plus dans le même courant architectural, forcément. Donc, qu'est-ce qui est notable à cette époque ?
Alors, il a triplé la superficie en fait, du château Renaissance. Donc, ça représente désormais une demeure d'environ 1700 m² de surface habitable, donc c'est assez confortable. Et en effet, le château va être marqué d'un nouveau style architectural, il s'agit du style néo-gothique. Donc c'est en fait un nouvel engouement pour l'architecture médiévale, donc on réutilise quelques détails du Moyen-Âge hein, qu'on mélange à l'architecture contemporaine.
D'accord. Ce qui fait déjà que Candé a un aspect assez spécifique, on va dire, visuellement. Il est fait de plusieurs petites pièces. Il n'est pas, on va dire, symétrique. C'est
oui,
ça
c'est vrai. C'est vrai. C'est un peu éclectique.
Ouais. Et c'est pour ça que quand on y entre, on a l'impression quand même qu'il est plus grand que quand on le regarde.
Enfin, oui, en tout cas, surtout que depuis la façade principale, en fait, l'architecture est installée un petit peu en escalier. Donc c'est vrai qu'on a du mal à avoir une vue complète et on est assez surpris lorsqu'on entre à l'intérieur. C'est vrai, les proportions sont
oui.
importantes.
Combien de temps Santiago Drac del Castillo va régner dans ce château, entre guillemets ?
Alors lui, il a vécu ici jusque dans les années 1870. Il est mort en 1871, donc dans l'ordre des choses, c'est son fils aîné, Jacques, qui a hérité de la propriété. Et dans le même mouvement, va continuer à faire fructifier la fortune familiale et il va continuer à exploiter les terres, notamment en s'occupant des vignobles, puisqu'il y avait une trentaine d'hectares de vignes à l'époque sur le domaine.
Alors on en parlera peut-être un petit peu plus tard des vignes. Moi, Jacques Drac, ça me dit quelque chose parce qu'il y a une place à Mont. Tout à l'heure, il y avait Brissonnet, on a une rue à Tours, d'ailleurs tristement célèbre, dans le vieux Tours. Et là, il y a Jacques Drac, c'est une place à Mont. Il me semble que Jacques Drac, je ne sais pas si je dis pas une bêtise, était un maire de Mont.
Oui, il était maire de Mont pendant de nombreuses années. C'est quelqu'un de très investi dans la politique locale. Et il, même au rang en fait, départemental, il va avoir un rôle assez influent. C'est une famille qui se soucie beaucoup de la vie des Montois. Les Drac del Castillo avaient fait construire une école de filles, par exemple. Très récemment, on a reçu une visiteuse dont la mère avait été reçue dans cette école. Donc on ressent encore le bien, si on peut dire, qu'ils ont fait autour d'eux.
Ouais.
Et Jacques Drac del Castillo, lui, s'est surtout intéressé à la vie des ouvriers, à améliorer la vie des ouvriers. À Tours, il a ouvert le premier restaurant des ouvriers, en fait, dans le quartier des Halles.
Il a gardé ce château longtemps ou c'est peut-être son
jusqu'à
fils qu'on a hérité.
Voilà, jusqu'à sa mort et c'est son fils ensuite, donc Jean, qui en a hérité au moment de la Première Guerre mondiale. Et puis là, pour la troisième génération des Drac del Castillo, on a une gestion différente. C'est un schéma qui est qu'on voit régulièrement. Malheureusement, la dernière génération va utiliser davantage la fortune qui a été amassée par les prédécesseurs et donc Jean en fait doit faire face à quelques difficultés financières. Donc il a vendu le domaine en 1927.
Donc on a combien de temps ? On a à peu près 150...
Ça représente 70 ans sur trois générations.
70 ans, ah oui, voilà. Je ne sais vraiment pas compter, ouais, effectivement, 1800, oui, c'est vrai, 70 ans, c'est plus... Donc 70 ans des Drac del Castillo qui se sont ensuite, je suppose, séparés à leur tour du château.
Oui, oui. Donc en 1927, c'est là la fin du règne, on va dire, hein, des Drac del Castillo. Et cette année-là, donc, de nouveaux propriétaires se sont installés ici. Ce sont des milliardaires d'origine américaine et française, Charles Bedeau et Fern, son épouse.
Donc là, on est dans une autre résidence, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le même type de personnage.
Non. On change de tempérament, en effet. Et donc eux, ce sont les derniers propriétaires privés du domaine de Candé.
Et ben, on va en parler juste après une petite coupure de musique. Merci à tous. De suite.
Daddy, there's a big change in your life. Why you don't treat me like you should a wife? Why you stay out all night? And you don't come home for days. Oh, but Daddy, you know that isn't right. And now I've changed my ways. Well, you drag me around until I lost my pride. And when I lose you, I'll be satisfied. Oh, 'cause any kind of man will be better than you. If he got one leg, that'd be all right, just so he'd bring that one leg home to mama every night. Any kind of man will be better than you. Well,
meant to live like I should. That didn't matter to you. Now my good days are done. Man, I'm having my fun. Don't care what I do. Oh, I'm really glad I found you out in time. I mean to get me a good man while I'm in my prime. Oh, 'cause any kind of man will be better than you.
On est de retour sur la rage dans l'émission Emmenez-moi. Aujourd'hui, c'est Emmenez-moi au domaine de Candé avec Violaine Montmarché, médiatrice du patrimoine, un fort joli terme d'ailleurs. Médiatrice du patrimoine d'ailleurs, c'est quoi
Ah, c'est la personne qui fait l'intermédiaire entre le patrimoine et le public, le rôle de médiateur, puisque le patrimoine et la culture ne pouvant pas parler d'eux-mêmes, il faut un intervenant.
En tout cas, c'est classe comme nom.
Merci.
Donc on en était à la famille Bedeau qui emménage avec ses petits cartons au domaine de Candé et qui apporte tout un tas d'innovations techniques, technico-technologiques, après toutes les transformations architecturales qui ont vécu avant leur arrivée. Eux, c'est plus, ils font marcher leur ménage, on va dire.
C'est bien ça. Donc, ce sont des milliardaires. Hein. Ils ont une vie absolument éblouissante. Donc, quand ils se sont installés à Candé en 1927, ils amènent avec eux toute la technologie qu'ils sont habitués à utiliser quotidiennement. Donc, ça va être l'eau courante, l'installation de magnifiques salles de bain, l'eau chaude à volonté grâce à une chaudière centralisée. Donc, ils installent aussi le chauffage. Ça, ce sont des grandes révolutions. Ils vont mettre en lumière totalement leur château grâce à l'électricité.
Donc il faut rappeler qu'on est en 1927.
Hein, voilà. Ça, vous bien le garder en mémoire. L'électricité était en partie produite sur le domaine grâce aux installations sur le cours d'eau, le Saint-Laurent, hein, un système de roues produit de l'électricité, comme le faisaient les moulins à l'époque. Et grâce à cette énergie, ils vont installer des machines assez excentriques en fait, à l'intérieur de leur château. Je pense surtout à l'orgue de résidence qu'ils ont aménagé dans leur bibliothèque et qui occupe trois niveaux du château.
On va en parler un petit peu plus tard. Mais moi, je sais qu'il y a 8 salles de bain, si je ne me trompe pas, ou 7 ou 8.
C'est ça.
Et combien ils sont à vivre là-dedans ?
Un couple.
Un couple. Donc
un couple. Mais ils ont beaucoup d'amis, ils reçoivent beaucoup d'invités. Donc chaque suite a sa propre salle de bain.
Donc le château est perpétuellement occupé, on peut supposer, à cette époque.
Oui, d'après tous les témoignages, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui séjournent ici.
Des courtisans de l'époque, quoi.
En quelque sorte.
Toutes ces installations, elles se trouvent où dans le château ? Est-ce qu'elles demandent beaucoup de personnel pour les faire vivre ?
À l'époque ou aujourd'hui ?
À l'époque.
Donc ils avaient une trentaine de domestiques.
Ah oui.
Donc il y a des femmes de chambre, maréchal ferrant, palefrenier. Il y a aussi tout un personnel dédié à l'entretien du golf de monsieur. Il avait son propre golf privé, donc il y a une vraie fourmilière en fait. Hein.
Donc ce personnel vivait dans les communs dans lesquels nous nous trouvons en ce moment ?
Oui, une partie est logée directement sur place, c'est bien ça.
Outre ce golf, je crois qu'on retrouvait aussi une salle de sport, donc ils étaient vraiment déjà très portés sur l'aspect fitness, physique.
Oui, alors ça c'est influencé par des principes américains, il y a vraiment une culture du corps assez importante.
C'était des précurseurs à l'époque quand même. Hein.
Oui. En Touraine, oui.
Oui, en Touraine, oui, bien
et
sûr.
Et donc, ils installent en effet une salle de culture physique, comme ils l'appellent, donc pour vraiment pouvoir entretenir leur silhouette. Et donc, avec un matériel de sport à l'époque qui est vraiment extrêmement perfectionné, hein, des îlots d'appartement, il y a un cheval d'intérieur, aussi un combiné pour faire des massages. Donc, c'est la pointe de la technologie et c'est extrêmement luxueux comme appareil. On sait par exemple qu'on a retrouvé les mêmes sur le Titanic.
Et qui était à peu près, oui, à la même époque, enfin un petit peu.
Quelques années auparavant.
Je crois d'ailleurs que ça se visite au château de Candé, cette salle, non ?
Oui, cette salle était à mi-parcours, donc c'est l'une des curiosités à découvrir. Bon, malheureusement, on ne peut pas essayer les appareils, non. Mais peut-être qu'un jour, il sera possible de le faire.
On a parlé également du, enfin, je crois, du standard téléphonique. Qu'est-ce que c'est que ça et pourquoi finalement un standard téléphonique dans une résidence ?
Alors Charles Bedeau est un homme d'affaires qui a des entreprises à l'international, donc il a besoin de pouvoir contacter en permanence toutes ces entreprises. Donc pour simplifier les choses, il fait installer son propre centrale téléphonique. Hein. Habituellement, il faut passer par les standards publics des communes. Mmh. Et donc lui installe le sien au sous-sol de son château. Donc il engage une opératrice qui travaille à demeure. Et c'est en fait la première fois en France qu'on retrouve la présence d'un standard domestique. Donc il peut téléphoner à l'international déjà à cette époque et aussi d'une salle à une autre, puisqu'il y avait une bonne trentaine de téléphones qui étaient disséminés dans tout le château.
Et ça, on le retrouve pas souvent à l'époque. Enfin, c'est quelque
Alors
chose
non,
de...
c'est extrêmement
J'ai même cru
rare,
comprendre hein. que c'était, même déjà dans les postes de l'époque, c'était déjà quelque chose qui, dans les télécommunications de l'époque, ça se voyait très très peu.
Oui, c'est vraiment très très moderne. Alors, ils n'ont pas amené le téléphone à Candé, puisqu'en fait, avant eux, les Drake del Castillo, ils l'avaient déjà. Hein. Mais ils devaient passer par le standard public de la commune de Mont. Donc là, on fait un grand pas vraiment dans l'évolution technologique, hein, puisqu'ils sont totalement indépendants du point de vue de la communication.
Alors, on a parlé tout à l'heure de l'orgue, l'orgue Skinner. Oui. Quelles sont ses caractéristiques et pourquoi est-il si fameux ?
Alors, c'est un orgue américain. Skinner, c'est le facteur d'orgue qui était installé aux États-Unis. Donc, l'instrument a été acheminé jusqu'ici par bateau. Il faut toujours imaginer ces dépenses folles. Hein. Il a été installé en 28-29 dans la bibliothèque. Le couple Bedeau a un goût assez prononcé pour la musique. Mmh. Et puis, comme ils ont une fortune importante, ça leur permet de réaliser des choses un petit peu excentriques comme l'installation d'un orgue. Cet instrument fonctionne toujours à l'heure actuelle, donc c'est pour ça qu'il est assez particulier. Il est conservé dans son état d'origine et donc il est classé monument historique.
Donc sur trois étages.
Sur trois étages,
il est en bas dans
ça.
La bibliothèque. Enfin, en tout cas, c'est là où on peut jouer de cet orgue et il monte ensuite dans les étages.
Oui, donc vous l'avez bien dit, hein, la bibliothèque accueille la console avec les différents claviers. Au premier étage, il y a toute la partie instrumentale, donc tous les tuyaux de l'orgue. C'est bien la zone où se crée la musique. Et le troisième niveau est sous les toits, c'est la soufflerie, l'orgue étant un instrument à vent. Et donc, c'est le système électrique, en fait, qui permet de relier toutes les zones entre elles. Et il y a un puits sonore, en fait, hein, une pièce vide qui communique entre la zone instrumentale au premier étage et la bibliothèque, de manière à faire redescendre la musique hein, dans la salle d'écoute.
Alors moi j'avoue que je connaissais pas, enfin j'avais pas eu connaissance de cet orgue il y a encore quelques temps et quand je suis venu j'ai été très agréablement surpris. Faut vraiment le voir. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent que pour voir l'orgue finalement, des amateurs de musique ?
Oui, l'orgue commence à avoir une certaine réputation, surtout que depuis...
Il n'y en a plus que trois dans le monde, d'après ce que j'ai entendu.
Alors,
qui sont
en fonctionnement. Et donc l'orgue de Candé, c'est le seul en Europe. Donc c'est vraiment un objet extrêmement rare. Et on a la chance maintenant de pouvoir le faire écouter hein, ponctuellement dans la journée, puisque son système automatique fonctionne toujours. Donc c'est d'autant plus intéressant pour les visiteurs que de se rendre compte hein, de la sonorité de cet instrument.
On va faire une deuxième et dernière pause musicale et on se retrouve juste après avec Violaine Montmarché du domaine de Candé.
Thank you.
On est de retour dans Menez-moi sur la rage avec Violaine Montmarché du domaine de Candé. On parlait il y a quelques instants du fameux orgue Skinner. Il y a aussi il y a autre chose qui a marqué un petit peu l'époque, en 1937. C'est ce fameux mariage dont les Montois ont longtemps entendu parler, plus que du château lui-même finalement. On savait tous qu'il s'y était passé un heureux événement ici, entre deux personnes qu'on ne connaissait pas forcément, mais dont on connaît le nom, Édouard VIII d'Angleterre et Wallis Simpson. Alors comment ça s'est passé? Et finalement, ces gens étaient des amis du couple Bedeau, ou des connaissances, en tout cas ils avaient des connaissances communes.
Voilà, des connaissances communes, c'est bien ça, ils ne se connaissaient pas directement. Fern et Wallis, ce sont deux Américaines qui ont une amie en commun.
D'accord.
Donc c'est grâce à cet intermédiaire en fait, qu'ils sont venus séjourner ici quelques temps. En fait, ils recherchaient vraiment un abri, un lieu à l'abri des regards, hein, puisqu'il faut bien imaginer qu'au moment de l'abdication, donc à la fin de l'année de 1936, les journalistes pourchassent sans cesse ce couple. Donc ils recherchent de la tranquillité avant tout.
Ils se sont dit, tiens, on va aller chez les campagnards, on va être tranquille là-bas, c'est un peu ça, quoi.
Voilà, c'est ça. Mais le nouveau roi, George VI, a validé le lieu pour le futur mariage de son frère, en réalité. Hein. Ça n'a pas été fait comme ça non plus totalement au hasard.
Il me semble que ça n'a pas été très très bien perçu de l'autre côté de la Manche, ce mariage.
Non, il était très inconvenu d'assister à la noce, hein, ouais. Puisque ce mariage n'était pas accepté par la couronne. C'est d'ailleurs l'un des motifs d'abdication du roi Édouard VIII, hein, qui devient donc duc de Windsor,
oui.
après son renoncement au trône, donc pour pouvoir épouser cette Américaine, hein, qui n'avait pas bonne presse,
voilà,
Wallis Simpson.
Ça. On en sait un peu plus sur elle rapidement.
Oui, alors c'est une femme qui n'avait pas d'origine aristocratique. Hein, elle était américaine, c'est aussi l'un de ses défauts aux yeux de la couronne. Elle avait un premier divorce à son actif et elle était encore mariée, donc ça faisait beaucoup de mauvais points en fait pour cette jeune femme qui ne convenait pas du tout à ce que voilà, elle pouvait pas devenir reine.
Donc c'était un mariage très, très fastueux ou au contraire très, très simple?
Plutôt intime. Hein. Bon, ils ont quand même envoyé des centaines d'invitations, mais malgré cela, il y a une quinzaine d'invités qui ont répondu présents. Et donc ce sont des personnalités politiques d'une importance moindre, hein, puisque vraiment il était malvenu d'assister à cette noce. Donc le mariage a été célébré dans le château le 3 juin 1937. Et après cette fête, en fait, le couple a quitté les lieux et n'est jamais revenu à Candé. Donc c'est un épisode bref, finalement,
oui,
dans l'histoire.
C'est éphémère, oui.
Même si ça a été l'apogée médiatique.
Le fer de lance château.
Ouais.
Donc les Bedeau sont propriétaires du château jusqu'à quand et qu'est-ce qui se passe après?
Donc Fern Bedeau, c'est elle qui vit la dernière ici. Son mari est décédé pendant la Seconde Guerre mondiale.
Ah oui, elle est restée longtemps.
Oui, elle est donc veuve. Elle reste à Candé jusqu'en 1972. Hein, c'est l'année de son décès.
Mm-hmm.
Comme il n'avait pas eu d'enfant, dès les années 50, en fait, il est convenu que le domaine devient héritier des lieux. Donc elle conserve l'usufruit en fait,
oui,
de sa propriété. Succession en 1972, l'État devient propriétaire et en 1974, l'État rétrocède le domaine au département, au Conseil général.
Donc il en est propriétaire depuis 40 ans maintenant.
Voilà, exactement.
D'accord. Je voudrais qu'on revienne sur un épisode du domaine, c'est la viticulture.
Oui.
Il y a un chai avec des pressoirs qui, à l'époque, étaient déjà, on va dire, un petit peu à la pointe de la technologie. Est-ce qu'on peut en savoir plus là-dessus? Parce que ça se visite également, enfin en tout cas, c'est ouvert à la visite en
oui,
partie.
Oui, c'est ouvert en partie. Donc les vignobles sont implantés dès la présence des Drake del Castillo, hein, dès les années 1870-80. Il y avait 30-35 hectares de vignes sur les terres de Candé, et donc ils font construire des chais extrêmement modernes pour cette période, de manière à pouvoir produire directement le vin sur place. Beaucoup de productions en fait sont directement traitées sur les lieux. On sait qu'ils produisaient aussi du cidre et toute la production agricole.
D'accord.
Issue de la ferme également. Hein.
Alors vous me disiez tout à l'heure hors antenne que le domaine à cette époque-là s'autosuffisait. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là?
Il faut comprendre tout simplement qu'on peut vivre en autarcie. ici, étant donné que toutes les cultures sont faites sur place, on peut se nourrir très facilement hein, grâce aux produits de la ferme, du potager, etc. Et en
potager qui se visite également.
Oui, le potager est toujours ouvert à la promenade. En exploitant les ressources naturelles de leur propriété, les Drac del Castillo pouvaient avoir de l'eau courante, par exemple, des aménagements très importants. Et donc cette vie en autarcie va s'améliorer considérablement ensuite avec l'installation des bedeaux.
Oui, effectivement, à la pointe de la technologie pour l'époque. Quelque chose dont on n'a pas parlé non plus, c'est l'origine intéressante du mot candé.
Candé. Alors en fait, dès le premier millénaire, on va parler de candé, mais dans des dialectes différents. Hein. Les Celtes, les Latins parlent de condat, condatum, condeium, et tous ces mots en fait peuvent se traduire par le confluent. Et en fait, ça renvoie directement à la situation géographique du domaine, puisque le domaine est situé au point de confluence de deux cours d'eau, l'Indre et le Saint-Laurent.
Tout s'explique, donc effectivement la ville de Caen-Saint-Martin fonctionne également sur, voilà, sur ces racines-là.
Exactement.
Ouais, j'ai appris ça la dernière fois, donc je suis fier, je le répète à l'antenne. donc depuis 40 ans, le CG, le Conseil Général d'Indre-et-Loire, est propriétaire des lieux. Depuis les années 2000, il y a vraiment une accélération, en tout cas, de la communication et de l'ouverture au public, pardon. Quelles sont les informations à retenir et les infos pratiques que vous pouvez nous communiquer là-dessus sur l'ouverture au public pour la saison à venir?
Donc le domaine est ouvert au public d'avril à novembre, oui, hein, pour la grande période. Oui. Et donc tout au long de ces mois, il est possible de profiter des extérieurs. Alors il faut savoir qu'il y a une partie du parc qui est classée ENS, hein, espace naturel sensible. Mm-hmm. Donc on propose énormément d'activités liées à la nature, hein, pour découvrir tout ce patrimoine qu'il faut protéger. Donc aussi bien pour les familles que pour les enfants, en journée, en nocturne aussi, hein, pour ceux qui aiment frissonner un petit peu.
Oui.
Il y a toute une partie de la programmation qui va également aborder le patrimoine. Bien entendu, l'orgue étant mis en valeur avec des écoutes, des concerts, notamment certainement pour la fête de la musique, comme il avait été le cas oui, en 2014.
Mais je crois qu'il y a également des marchés gourmands. Ou
oui, ça fait partie des grandes dates. Marchés gourmands et puis pique-nique mécanique, désormais. Hein, voilà, pour mettre en valeur le côté ingénieux et mécanique du domaine, on a mis au point cette manifestation en collaboration avec les grands chefs tourangeaux, mm-hmm, dont Olivier Arlot en premier lieu.
On rappelle également que le domaine est régulièrement prêté à d'autres prestataires et que Terre du Son, le festival Terre du Son, s'y déroule chaque mois de juillet, le deuxième week-end de juillet en général, ici même. Donc c'est la première vitrine presque maintenant du domaine, en tout cas la plus médiatisée.
Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça, d'autres manifestations?
Alors c'est vraiment la plus importante. Hein. Pendant ces trois, ouais, jours de festival, la nature calme de Candé, oui, est bouleversée.
Oui, mais ça change un petit peu.
Ça change la vie.
Bah merci Violaine Montmarché du domaine de Candé d'avoir été avec nous dans Emmenez-moi. Vous pouvez retrouver toutes les émissions du patrimoine et également des autres thématiques de la RAGE sur le site www.la-rage.fr. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.
Le patrimoine et la culture ne pouvant pas parler d'eux-mêmes, il faut un intervenant.
En gros, à cette époque, la France est morcelée entre plusieurs seigneurs.
Dès le premier millénaire, on va parler de Candé, mais dans des dialectes différents. Hein. Les Celtes, les Latins parlent de condat, condatum, condeium.
Au-dessus du château d'Avre, là, on a suffisamment maintenant d'éléments pour voir qu'on a un habitat dans ce qui...
Bah, disons qu'avant la Révolution, on comptait trois chapelles dans la commune.